l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. Les candidats à la présidentielle de 2022 s'apprêtent déjà à conquérir le cœur des électeurs. Certains d'entre eux tentent de mener leur campagne électorale jusque dans le métavers. Il s'agit d'un monde virtuel dans lequel les utilisateurs peuvent mener des activités sociales, culturelles et économiques en manœuvrant leur avatar. Zepeto, la plateforme virtuelle du moteur de recherche Naver, est notamment devenue le théâtre de cette concurrence électorale. L'ancien premier ministre Lee Nak-yeon a mis en place son camp électoral sur une pelouse en plein air. Sur les tables de fête ont été déposées les autobiographies du candidat du Minju, le parti présidentiel. Quelques avatars, qui ont l'air d'être ses partisans, dansaient sur la scène au milieu. Won Il-yong, le candidat du parti du pouvoir du peuple, le PPP, la première force de l'opposition conservatrice, a quant à lui créé un lieu nommé Il-yong World, afin de faire sa promotion. Après avoir parcouru un chemin de cerisier, on est confronté à un grand immeuble. Dans une pièce du premier étage décorée comme une salle de presse, la photo de l'ancien gouverneur de l'île de Jeju est accrochée. La campagne électorale sur le métavers est-elle soumise au droit électoral? Eh bien, la réponse est oui, selon le quotidien Kyongyang Shinmun, la commission électorale a affirmé que ce lieu virtuel était considéré comme un site internet. Les candidats peuvent alors y essayer de convaincre les électeurs dans la mesure où ils ne diffusent pas de fausses informations ni ne calomnient d'autres individus. Mais il n'y a pas de limite pour l'utilisation des haut-parleurs, des véhicules de campagne ou des bureaux, contrairement à la réalité. Toutefois, offrir des items payants comme un gilet ou un chapeau aux autres utilisateurs n'est pas autorisé, tout comme le fait que les candidats n'ont pas le droit de faire un don pendant la campagne électorale. Cet acte risque d'être considéré comme un versement de pot de vin et il est passible d'une amende maximale de 30 millions de won ou 21 800 euros ou d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. Un professeur en politique et relations internationales a analysé que les personnalités politiques exploitaient cette nouvelle forme de réseaux sociaux pour être en phase avec les jeunes générations, dont l'influence politique est croissante. Il a d'ailleurs conseillé de l'utiliser pour faire connaître leur identité et leur ambition politique, plutôt que de danser en tenue ridicule pour attirer le regard. Un autre expert en génie industriel a indiqué qu'il était regrettable que la communication reste encore unilatérale, alors que l'avantage de ce monde virtuel réside justement dans la réciprocité. Le centre coréen sur les problèmes de jeux d'argent, le KCGP, a récemment fabriqué un ruban adhésif un peu spécial. Au-dessus du scotch sont imprimées des phrases qui stimulent la curiosité telles que « Je l'ai découvert pendant mes études au Royaume-Uni et je n'ai pas pu m'arrêter pendant 17 ans » ou encore « J'ai refusé de rembourser la dette de mon fils qui a atteint 800 millions de won ». À côté se trouve un code QR qui permet d'accéder à une vidéo des personnes qui prononcent ces paroles. Il s'agit du youtubeur Kolu qui a perdu 700 millions de won ou 507 000 euros pendant 17 ans à cause des jeux de hasard, et de Kim Sung-jung, une sud-coréenne dont le fils souffrait de l'addiction aux jeux dans le passé. Ils y témoignent de leur expérience d'avoir surmonté la dépendance ou d'avoir aidé un membre de la famille à le faire. Ils ont pris une décision difficile de s'y produire en montrant leur visage pour donner l'espoir aux individus accros aux jeux. Ce papier a adhésif pour colis a été distribué dans 15 postes à Séoul, dans la province de Gyeonggi, à Daejeon et à Busan entre autres. Pour faire la promotion de ce ruban, l'Institut public mène un événement entre le 13 et le 30 septembre. Ceux qui souhaitent y participer peuvent visiter une de ces postes, prendre la photo du scotch et envoyer la photo aux réseaux sociaux du centre. 20 personnes sélectionnées par tirage au sort recevront un bon d'achat de café. Selon un responsable, pas mal de personnes ne savent pas encore que l'addiction au jeu d'argent est une maladie qui nécessite le soin d'experts. Le KCGP s'est attendu à ce que ce clip permette davantage d'individus accros de bénéficier des soins nécessaires au centre. Il fournit gratuitement un service de consultation en face à face et également via téléphone, SMS et chat en ligne. La série Netflix sud-coréenne DP est sur toutes les lèvres. Cette œuvre adaptée d'un webtoon d'une BD coréenne fascine les spectateurs en décrivant la vie quotidienne dans une caserne militaire de façon réaliste. Cependant, le feuilleton ayant été créé sans collaboration avec l'armée, certains pointent du doigt le fait que les civils n'ont pas le droit de porter un uniforme militaire. Mais est-ce bien vrai? En effet, la loi sur le contrôle des vêtements militaires interdit le port des tenues et des équipements militaires aux personnes qui n'appartiennent pas à l'armée. Ceux qui l'enfreignent sont condamnés à une amende de moins de 100 000 won, soit 73 euros, ou à de la détention. En cas de fabrication et de vente, la sanction est plus lourde, allant jusqu'à une peine d'emprisonnement d'un an ou une amende de 10 millions de won, l'équivalent de 7 300 euros. Cependant, la clause 3 de l'article 9 de la même législation stipule une exception. Il est autorisé de mettre les habits de soldats dans le cadre d'une activité culturelle ou artistique. Et en vertu de la loi sur la promotion de la culture et de l'art, on peut interpréter que la production d'un feuilleton fait partie de ce domaine. Un responsable du ministère de la Défense a confirmé que l'équipe de production pouvait tourner la série sans obtenir une autorisation des autorités militaires. Par ailleurs, les civils qui ne s'investissent pas dans les activités culturelles peuvent toujours revêtir un uniforme militaire à condition que celui-ci ne soit pas porté actuellement à l'armée. Le port et la fabrication d'un ancien modèle de vêtements appelé uniforme grenouille ne sont plus sanctionnés depuis le jugement de la Cour suprême en 2019. À l'époque, le parquet avait inculpé un habitant qui avait vendu un ancien modèle de chaussures de combat. Mais le tribunal a acquitté l'accusé en affirmant que la loi ne s'appliquait pas aux uniformes d'antan qui ont été remplacés par une tenue de camouflage numérique en 2014. Car même si les civils l'enfilent, ils sont facilement distingués des soldats et cela n'entrave pas les opérations militaires. Récemment, certains talibans qui ont porté l'ancien uniforme de l'armée sud-coréenne ont été rapportés par les médias. Les exportations de ces produits en Afghanistan constituent donc un acte tout à fait légal.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 9 septembre. À l'occasion de la 73e journée des forces armées qui tombe le 1er octobre prochain, le ministère de la Défense a préparé un cadeau spécial, un coffret de parfums de l'armée. Il compte les offrir aux internautes sélectionnés par tirage au sort parmi ceux qui participent aux événements sur Internet. Pour y prendre part, il suffit de répondre à un simple quiz ou de laisser un commentaire encourageant aux soldats sur les réseaux sociaux du ministère. Ces quatre parfums en édition limitée symbolisent respectivement l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et l'infanterie de marine. Ils ont été fabriqués par la maison de parfums sud-coréenne 121 Le Mal du Pays. Mais contre toute attente, les réactions des habitants étaient variées. Certains internautes ont partagé l'événement sur leur blog en affirmant avoir hâte de découvrir les odeurs qui incarnent les militaires. Un soldat qui les a essayés a témoigné qu'ils avaient apprécié les parfums et se sentaient fiers de l'image de l'armée. Il a même affiché son intention d'acheter le produit s'il était commercialisé. En revanche, d'autres restaient plutôt sceptiques. Selon un sergent, dès qu'il a entendu le mot « parfum de l'armée », la première chose qui lui est venue à l'esprit n'était que des odeurs désagréables, comme celles de la poudre, de la sueur, des pieds, ainsi que de l'entraînement contre les armes chimiques. Et même s'il reçoit les produits, il préférait simplement les garder comme souvenir plutôt que de les utiliser. D'après un salarié de 31 ans, pour lui, l'odeur de l'infanterie de marine est celle de la moisissure et il n'a pas envie de se rappeler des mauvais souvenirs du service militaire avec ses eaux de toilette. D'autres internautes ont incité à utiliser le budget plutôt pour améliorer la qualité des repas à la cantine des soldats. Face à ces critiques, le ministère a expliqué que l'odeur de la sueur était indéniablement une des odeurs réalistes de l'armée, mais qu'elle n'avait rien à voir avec les parfums militaires. En effet, l'eau de toilette de l'armée de terre est basée sur l'odeur du bois qui rappelle la prairie verte, tandis que celle de la marine sent les eaux fraîches en offrant une sensation de plongée dans une mer profonde. Le produit destiné à l'armée de l'air incarne la fraîcheur du ciel bleu et l'eau de toilette de l'infanterie de marine a tenté de reproduire l'atmosphère de la plage avec le soleil brûlant ainsi que la bravoure des soldats. Selon un responsable, cet événement a été organisé pour attirer l'attention du public sur la journée des forces armées qui a pour objectif de déployer la compétence des armées sud-coréennes et de remonter leur morale. Cette année, les autorités militaires ont essayé de montrer la puissance des militaires à travers l'odorat. L'intérêt pour la gestion des déchets n'a jamais été aussi grand sur fond de l'épidémie de Covid-19 qui a fait exploser l'utilisation des produits à usage unique. Dans ce contexte, l'arrondissement de Yangcheon à Séoul a récemment mis en place davantage de kiosques de récupération de cartons de lait pour inciter les habitants à trier des ordures recyclables. Dans un premier temps, ce gadget basé sur l'internet des objets se trouvait seulement à Haenuri-town, un complexe de bien-être social et dans une mairie de quartier de Mokdong. Désormais, 5 nouveaux équipements sont installés dans 2 garderies, 2 bibliothèques et un centre de soutien à la régénération urbaine. En fait, ce kiosque n'est pas un simple conteneur de recyclage. Les habitants peuvent accumuler des points à chaque dépôt. Un carton de lait leur permet d'obtenir 10 points et quand on atteint 100 points, il est possible de les échanger contre une brique de lait de 200 ml. L'utilisation de la machine n'est pas très compliquée. Tout d'abord, il faut télécharger l'application mobile Tri Sélectif d'aujourd'hui sur son smartphone. À l'aide de ce programme, l'utilisateur doit s'identifier en scannant son code QR personnel. Ensuite, il suffit de taguer le code barre du carton de lait sur la machine et de le mettre dans la boîte. Seuls les emballages en carton sont autorisés. Avant de les jeter, il est conseillé de vider le liquide, de rincer le carton à l'eau et de le sécher. Les cartons de lait sont fabriqués avec des pâtes de papier 100% naturel et il est donc une très haute valeur de recyclage. Il est même possible de fabriquer des mouchoirs de haute qualité avec les cartons recyclés. Pour cela, les emballages doivent subir un processus spécial pour enlever le revêtement et c'est pourquoi il est important de les jeter séparément des autres papiers. Mais malheureusement, peu de citoyens respectent cette consigne et son taux de recyclage ne cesse de baisser. L'an dernier, il s'est élevé seulement à 16% contre 25% en 2014. À savoir que la plupart des matériaux de carton sont importés de l'étranger. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Organisation du Tourisme de Corée ont récemment organisé un concours de photos et de souvenirs liés au voyage dans le pays du matin clair. La liste des lauréats a été dévoilée hier. Le thème était les destinations touristiques en fleurs attirant toute l'année. Face à l'accroissement de la consommation des contenus numériques, les sections vidéo et photos prises par smartphone ont été nouvellement créées, avec en tout 3321 œuvres déposées. Le prix présidentiel, qui est la récompense la plus prestigieuse, a été accordé à l'image d'un paysage de neige du jardin traditionnel Myeongok-hon, situé à Damyang, dans la province de Jeolla du Sud. Sur le cliché, un couple vêtu de hanbok, la tenue traditionnelle coréenne, marche avec un parapluie dans un monde blanc de neige. Il a permis de découvrir le nouveau charme de ce site, qui est d'habitude plébiscité en été, grâce à sa verdure formée par les lilas d'été. Le deuxième prix a été décerné à une photo de lever de soleil au port de Mopo, dans la province de Gyeongsang du Nord. Elle a capturé un paysage mystique de petites cascades de mer. Du côté des souvenirs, le sujet du concours était « Retrouver le voyage, 2 points, la Corée du Sud ». Le grand prix a été attribué au pain de pommes de terre de Chuncheon, le chef-lieu de la province de Gangwon. Cette viennoiserie a été concoctée avec une pomme de terre rose, la variété développée dans la région. Le jury a estimé que ce produit pourrait contribuer à l'économie locale. Un plateau en bois, décoré avec une image de porcelaine en forme de chamwe, le melon coréen, a reçu la récompense du Premier ministre. Il a été fabriqué avec la méthode traditionnelle de décoration du nacre et de l'incrustation. Un jeu d'échecs inspiré par les patrimoines culturels de Gyeongju s'est vu décerner le même prix. Les pièces d'échecs incarnent les biens historiques comme des cloches et des tours. Le ministère de la Culture prévoit d'acheter des produits primés et de les offrir aux personnels médicaux qui luttent contre le Covid-19 en première ligne. Il espère que ces concours permettra de donner plus de visibilité aux sites touristiques et de redynamiser le tourisme en Corée du Sud plombé par l'épidémie. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée cet après-midi en ligne. Les œuvres qui se trouvent sur la liste des lauréats de toutes les éditions du concours seront exposées au centre commercial Songsu Naknak à Séoul à partir de demain jusqu'au 6 octobre prochain.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour mon plan de sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays de Batinclair, le tout en 5 minutes chrono. Au programme cette semaine, le duo d'une violoniste et d'un pianiste, un concert de musique de chambre dans une ville portuaire et un trio raffiné qui vous proposera détente et douceur. Mais avant cela, une pendaison de crémaillère en musique avec un concert organisé par le label Stamp Music qui emménage dans ses nouveaux locaux. Bon plan de sortie, c'est parti! L'agence de production musicale Stamp Music organise ce week-end du 10 au 12 septembre une série de concerts pour célébrer l'inauguration de ses nouveaux locaux dans le quartier de Samsung à Séoul. Demain vendredi, Kim Jong-bom alias Puditorium, compositeur et leader du groupe de pop jazz Pudding, se produira en concert en compagnie de son groupe. Il est notamment connu pour avoir composé des bandes originales de films comme One Day et My Dear Enemy du réalisateur Lee Yoon-gi. Samedi, le pianiste Shin Chang-yong donnera un concert avec des œuvres de compositeurs divers comme Bach, Chopin ou Debussy. Lauréat du prix du concours international Gina Bachauer 2018, il a été formé à la Juilliard School de New York. Enfin, dimanche, la soprano Hong Hye-ran, lauréate du concours international Reine Elisabeth 2011, montera sur scène avec son mari Choi Won-hui, chanteur ténor, pour un concert baptisé Beautiful Dreamer, après le titre de la chanson du compositeur américain Stephen Foster. La violoniste Clara Jumi Kang et le pianiste Kim Son-hook donneront 3 concerts les 12, 14 et 15 septembre au Centre d'art de Séoul pour interpréter l'intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven. Les deux artistes ont récemment enregistré un album avec ce programme prévu pour sortir prochainement. Ils ont entamé le 22 août dernier une tournée nationale qui dure jusqu'au 17 septembre et qui les emmène entre autres à Pyeongchang, Daegu, Ulsan et Yeosu. Lors de son passage à Séoul, le duo jouera les sonates numéro 1, 4, 7 et 8 le 12 septembre, les numéros 6, 3 et 9 le 14 et les numéros 2, 5 et 10 le 15 septembre. Les 10 sonates pour violon et piano de Beethoven ont été écrites entre 1798 et 1812. Parmi ces œuvres, la sonate numéro 5 en Fa majeur, le printemps, et la sonate numéro 9 en La majeur, Kreutzer, sont les plus célèbres. Le chef d'orchestre Gum Nan-se et des membres de l'orchestre symphonique de la KBS donneront un concert de musique de chambre le 11 septembre au petit théâtre de Yeolmaru à Yeosu, une ville maritime située dans la province de Jeolla du Sud. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du Festival de musique de Yeosu. Lors de ce concert, on pourra entendre notamment la sonate pour cordes numéro 2 en La majeur et le 3e mouvement du duo pour violoncelle et contrebasse en Ré majeur de Rossini, les 2e et 4e mouvements du quatuor à cordes numéro 12 en Fa majeur, opus 96 de Dvorak, ainsi que Palladio de Jenkins. Chaque œuvre sera accompagnée de commentaires du maestro Gum, connu pour ses efforts pour rendre la musique classique plus accessible au grand public. Enfin, à la veille du long congé de Chuseok, la fête de la pleine lune et des récoltes, le trio raffiné propose un moment de détente et de douceur avec un concert le vendredi 17 septembre au Gemmo Art Hall Yonsei à Séoul. Le trio raffiné est composé de 3 jeunes musiciens talentueux. La violoniste Park Jin-young a étudié à l'Université nationale des arts de Corée à Séoul avant de poursuivre ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Le violoncelliste Yoon Seok Jock Wu a lui été formé au CNSM de Lyon, puis au CNSM de Paris. Il est actuellement membre du Gunpo Prime Philharmonic Orchestra. La pianiste Park Yo-min a quant à elle fait ses études à l'Université des Arts de Berlin et à l'Université Nationale de Séoul. Au programme de ce concert figurent les trios pour piano de Joaquin Turina, Johann Brahms et enfin Maurice Ravel. Voilà, cette édition de Bon Plan de Sortie est terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atleni au micro, Ijian à la rédaction avec Ho Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.